Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Aliette Ovin et Constance Lescouillère. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jean Frédérix.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième épisode de notre série consacrée aux banques et aux banquiers. Après avoir côtoyé les financiers médiévaux sur les places de foire lundi et déambulé dans les couloirs de la Banque Centrale Européenne hier, peut-on financer l'économie sans le secours du banquier ? Les banques traditionnelles subissent en effet de plus en plus la concurrence des nouveaux venus sur le marché. Parmi eux, les fintech, ces start-up qui réinventent la finance grâce aux nouvelles technologies. Des acteurs qui bouleversent le paysage du financement de l'économie depuis la crise de 2008 et la défiance envers les banques qui l'a accompagnée. Hors des banques, point de salut, voilà le sujet de notre discussion du jour en compagnie de Jezabel Coupé-Soubéran, économiste, maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de Parlons Banque en 30 questions, publié à la Documentation française, en compagnie également de Dominique Chéneau, président du cabinet de conseil Trésorisque, enseignant à HEC et à l'EDEC, et directeur avec Christian de Boissieu de la publication du think tank Le Cercle Turgot, Financer l'économie réelle, publié aux éditions Erol. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Jezabel Coupé-Soubéran et Dominique Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant toute chose, ce qu'il faut rappeler, c'est que la première mission des banques, c'est de financer l'économie. Elles font partie, Jezabel Coupé-Soubéran, de ce que les économistes appellent les intermédiaires financiers.
Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, le financement de l'économie, c'est censé être la fonction clé des banques. Alors on appelle les banques des intermédiaires financiers. Pourquoi ? Parce que ce sont des institutions, des entreprises si vous voulez, qui s'interposent entre deux ensembles d'agents. D'un côté, des agents qui ont de l'argent à confier, pour dire les choses simplement, donc des déposants, des épargnants qui lui confient de l'argent. Et puis de l'autre côté, eh bien, des agents, des entreprises notamment, mais aussi des ménages qui ont des projets d'investissement et qui ont besoin de les financer, qui n'ont pas suffisamment de ressources propres pour les financer, qui ont besoin d'un financement externe, donc ils font appel à la banque.
Mais parmi les intermédiaires financiers, la spécificité de la banque, c'est qu'elle est finalement la seule à avoir le pouvoir de créer de la monnaie à travers les crédits qu'elle accorde, Dominique Chéneau.
Oui, incontestablement. Il y a deux types de banques, celle que Jezabel vient de mentionner. Il y a un autre type de banque qui est celle qui fait circuler l'argent. Donc dans ce que Jezabel vient d'indiquer, l'argent passe par le bilan des banques. Donc les risques sont sur les banques et ce sont les banques qui prennent les risques sur les clients. Et puis dans d'autres situations, ce qu'on appelle assez rapidement la banque d'investissement, la banque connaît un investisseur, connaît un emprunteur, s'arrange pour les mettre ensemble, mais le risque est pris par l'investisseur sur l'emprunteur.
Et ce sont ces deux types de banques qui vont créer ensuite la monnaie ? De quelle façon ?
Non, celui qui crée de la monnaie, c'est la banque qui passe par son bilan, parce qu'il y a effectivement des dépôts, et à partir des dépôts, on va générer de nouveaux prêts, de nouveaux emprunts, et avec une mécanique qu'il est peut-être un peu long de rappeler ou de préciser en 45 secondes.
Jezabel Coupé-Soubéran.
Oui, je suis pas sûre que ce soit si facile que cela de dissocier les deux banques là, comme les deux types de banques comme vient de le faire Dominique. Mais justement, ce qui est difficilement dissociable, si vous voulez, c'est le fait de savoir si ce sont les dépôts qu'on confie à la banque qui font les crédits que la banque accorde, ou si ce sont au contraire les crédits que la banque accorde qui font les dépôts. Et le principe de base de la création monétaire, eh bien, c'est précisément le second, ce sont les crédits qui font les dépôts. C'est-à-dire que la banque a cette capacité quand même assez extraordinaire de faire en sorte que lorsqu'elle octroie un crédit à un emprunteur, elle émet une dette sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle va créditer le compte de dépôt de l'emprunteur, de la somme qu'elle lui accorde. Et c'est ainsi qu'on met de la monnaie en circulation, parce qu'après, évidemment, ce crédit qui s'est donc transformé en dépôt sur le compte de l'emprunteur va circuler, parce que l'emprunteur va faire des choses avec, il va acheter un appartement, une voiture, que sais-je, et ainsi l'argent va circuler dans l'économie.
Et alors, pour faire des bénéfices, les banques vont tenter de faire à la fois des économies d'échelle et des économies d'envergure. En quoi est-ce que cela consiste, Jezabel Coupé-Soubéran ?
Alors, effectivement, une banque, si vous voulez, c'est quand même à la base une industrie de réseau. Pour être banque, il faut avoir ce réseau de clientèle, administrer ce réseau de clientèle. Et ça veut dire que, alors, Hier, c'était un réseau de guichets. Aujourd'hui, c'est un vaste réseau informatique. Il y a des coûts fixes énormes associés à l'activité bancaire. Et donc, ça veut dire qu'une banque n'est pas viable économiquement si elle n'a pas une certaine taille. Il lui faut effectivement avoir une certaine dimension, et jusqu'à cette dimension, elle peut réaliser ce que l'on appelle des économies d'échelle. C'est-à-dire que plus elle augmente son échelle d'activité, et au plus elle parvient à réduire son coût moyen d'activité. Ça vaut jusqu'à un certain seuil, et pour certains segments d'activité, au-delà d'une certaine taille, alors il y a débat autour de ces questions-là. Au-delà
d'une certaine taille. Oui, parce que la concentration bancaire, ça a été l'objet de beaucoup de débats au moment de la crise. On a parlé des too big to fail, oui. Ces banques trop importantes pour faire faillite.
Exactement, et ça c'est véritablement un problème, si vous voulez. Certes, il faut à la banque une certaine taille pour bien fonctionner, mais au-delà d'une certaine taille, eh bien, la banque devient dangereuse. Parce que au-delà d'une certaine taille, lorsqu'on a des banques, comme aujourd'hui en France, hein, on a 4 très grandes banques, des banques too big to fail, comme vous dites, des banques systémiques, dont la taille de bilan est proche du produit intérieur brut de la France, enfin un petit peu moins maintenant parce que ça a baissé, mais on est à 60% du produit intérieur brut pour Société Générale, on est à 80% pour BNP Paribas, c'est énorme. Et vous voyez que des grandes banques comme cela, s'il leur arrive quelque chose, eh bien c'est le secteur tout entier qui en pâtit, et bien sûr l'économie ensuite, dans son ensemble aussi, des répercussions très négatives.
Comment déterminer alors, en effet, Dominique Chéneau, la taille idéale d'une banque? On voit qu'il faut qu'elle trouve un juste milieu.
Je reviens sur ma présentation des deux types de banques. La banque qui est en charge de faire d'apparier un investisseur avec un emprunteur, ça passe pas par son bilan. Son rôle, c'est de connaître les gens et d'arriver à les intéresser, les investisseurs et les emprunteurs. Et ça peut se faire avec ce qu'on appelle des boutiques banques, comme il y a les boutiques hôtels dans certains endroits. Et ces boutiques banques peuvent se faire avec 20 personnes. J'ai cité le cas de la banque Leonardo. Jean-Marie Messier a créé la sienne quand il est rentré des États-Unis. Enfin voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Donc quand on parle de grandes banques à réseau, effectivement il y a une certaine taille. Après, quelle est la taille idéale, qui est vraiment votre question? Je crois que ça dépend beaucoup du positionnement sur lequel se trouve la banque, ça dépend aussi du type de produit qu'elle veut diffuser. Et puis élément important aussi pour arriver à faire des bénéfices, et ça dépend beaucoup de l'environnement et aussi de la qualité d'analyse de la banque, c'est le taux de défaut. Donc on a actuellement des taux de défaut qui sont historiquement bas.
Alors expliquez-nous ce que c'est que le taux de défaut.
Alors le taux de défaut, c'est le pourcentage de prêts qui ne sera pas remboursé. Voilà. Donc quand un prêt n'est pas remboursé, évidemment c'est de la perte sèche qui s'impute sur les fonds propres, avec un double effet qui se coule, qui est évidemment assez déplaisant. C'est que comme les fonds propres, la taille des fonds propres conditionne les encours. Si les fonds propres sont réduits par les pertes, on va devoir réduire les encours. Donc il y a un effet d'enchaînement qui est très 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 fâcheux pour une économie. Donc c'est pour ça que si on a un taux de défaut qui fait 1 ou 1,5% versus dans certaines périodes 10%, oui, il y a un impact, une escalade qui est phénoménale.
Et c'est pour ça que l'un des grands enjeux pour la banque, ça va être de collecter le maximum d'informations sur sa clientèle pour prévenir les risques de non-remboursement. Gisèle Coupé-Soubert.
Oui, tout à fait. La banque, alors telle qu'on la présente d'ailleurs dans des manuels d'économie bancaire, c'est un producteur d'informations. D'accord, c'est ce qui fait sa raison d'être. La banque est censée collecter des informations sur ses emprunteurs. Il y a de l'information aussi qu'elle produit en gérant les comptes de dépôt. Alors il faut comprendre ça de manière un petit peu abstraite. Ça veut pas dire que la banque va enquêter comme ça sur vous, mais ça veut dire que une banque doit avoir, si vous voulez, une très bonne connaissance de ses clients emprunteurs. Et c'est ça, finalement, c'est cette technologie qu'elle maîtrise de production d'informations sur ses emprunteurs qui va lui permettre de réduire le taux de défaut de son portefeuille globalement. Je voudrais juste ajouter un point, si vous le permettez. Il n'y a sans doute pas de taille idéale pour définir une bonne banque. En revanche, eh bien, lorsque le secteur se concentre autour d'un petit nombre de très grosses banques, là, ça pose problème. Il n'y a sans doute pas de taille idéale. On ne raisonne peut-être pas suffisamment en termes d'écosystème bancaire. En fait, on a besoin de petites banques, de moyennes banques, de grandes banques, bien adaptées aux besoins des entreprises, aux besoins de financement de l'économie.
Et peut-être qu'on rejoint ici ma question de tout à l'heure autour des économies d'envergure, puisque il y a les clients qui souhaitent emprunter sont souvent aussi les déposants de la banque, ce qui permet à la banque de diversifier ses activités.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas répondu à votre question tout à l'heure concernant les économies de gamme, et c'est essentiel parce que c'est sans doute une des marques des transformations des bilans bancaires au cours des dernières décennies. Les banques ont considérablement diversifié leurs activités, et c'est pour ça que j'étais pas très à l'aise avec la distinction initiale, parce que finalement, une grande banque aujourd'hui, comme Société Générale ou comme BNP Paribas, bah, ce sont des banques qui sont à la fois sur des activités de banque de détail et des banques qui sont aussi sur des activités de banque de financement et d'investissement. Donc, ces banques, si vous voulez, agrègent tout un ensemble de services pour les entreprises, pour les ménages, agrègent également des services qui étaient très éloignés de la banque auparavant, par exemple en proposant des contrats d'assurance à ses clients. Alors des contrats d'assurance vie, on peut se dire, bah ça c'est quand même assez proche de l'épargne de long terme, mais également par exemple des contrats d'assurance dommage. Et en agrégeant toutes ces activités, eh bien, les banques ont réalisé dans une certaine mesure, sans doute, des économies de gamme, c'est-à-dire qu'elles ont permis ainsi, si vous voulez, de produire ces activités à moindre coût. Après, du fait de la grande taille de ces banques et de leur position de domination sur les marchés, il n'est pas certain que les clients en aient bien profité.
Alors, on va évidemment revenir sur tous ces points, mais alors, peut-être que le problème, le risque auquel est confronté un certain nombre de banques, c'est le fait que un mouvement de retrait massif de la part des déposants peut survenir, ce qui mènerait à la faillite, parce que ce qu'il faut peut-être bien comprendre, c'est que la banque n'a pas assez de fonds propres pour rembourser tous ses clients, Dominique Chéneau.
Oui, par principe. Par principe, c'est une banque est un établissement, comme c'était rappelé, qui emprunte de l'argent et qui en prête. En fait, les fonds propres, ils sont là pour permettre à la banque de faire face à des difficultés. Et tous les éléments de réglementation dont on parlait tout à l'heure sont fondés là-dessus. Ça tourne autour des fonds propres. Et donc, quels sont les risques qu'une banque peut avoir à gérer? Ce ne sont pas seulement le risque de crédit, mais ça l'est aussi. Voilà. Mmh. Donc la matière, c'est vraiment de l'argent, et c'est pas tant l'argent de ses actionnaires que l'argent de ceux qui lui font confiance en lui prêtant justement une certaine quantité d'argent.
On a parlé du fait que les grandes banques peuvent diversifier suffisamment leur activité pour ne pas dépendre de la rentabilité, enfin des aléas subis par les emprunteurs individuels. Mais en revanche, les petites banques vont être tributaires du défaut de paiement d'un ou plusieurs gros emprunteurs, Jezabel Coupé-Soubéran. Elles vont être beaucoup plus fragiles.
Alors, est-ce que les petites banques sont plus fragiles que les grandes banques? Alors ça, c'est vraiment une très très bonne question. Et au fond, ça dépend de quoi? Ça dépend d'une part des fonds propres au bilan de la banque. Dominique l'a rappelé, les fonds propres, c'est une ressource essentielle au bilan de la banque parce que c'est la seule ressource qui soit non remboursable. D'accord? Donc ça veut dire, si vous voulez, que si la banque réalise des pertes, eh bien, c'est cette ressource-là qui précisément permet d'absorber les pertes. Les fonds propres, ça joue comme une éponge à pertes. Alors, si une petite banque a effectivement un bilan un peu moins diversifié qu'une grande banque, mais est suffisamment prudente pour avoir justement un bon coussin de fonds propres, un bon coussin de capital. Si elle est suffisamment prudente aussi pour avoir une part suffisante d'actifs très liquides, c'est-à-dire des actifs qu'elle va pouvoir revendre sans trop de difficultés sur les marchés qui vont lui permettre de se procurer les ressources dont elle a besoin, cette petite banque ne sera pas fragile. Prenez une grosse banque avec beaucoup d'activités à son arc, beaucoup de cordes à son arc. Donc un bilan plus diversifié, mais qui détient proportionnellement très peu de fonds propres, qui détient 4%, 5% de fonds propres. Et ça, je mentionne que c'est suffisant pour respecter la réglementation en vigueur en termes de ratio
qui est à 3%,
3% pour le ratio
selon les accords de Bâle 3.
Exactement. Donc 4-5% de fonds propres au bilan d'une très grande banque, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que elle peut éponger jusqu'à une perte représentant 4-5% de ses actifs. Bon, en temps normal, c'est sans doute suffisant. En période de grande tension et avec, par exemple, si vous voulez, une chute massive du prix des titres sur les marchés, sachant que ces banques-là, ces grandes banques-là, ont un portefeuille de titres très conséquent à leur bilan. C'est parfois la moitié de leur bilan qui est constitué d'un portefeuille de titres du fait de certaines activités de gestion de titres, d'assurance, etc. Cette banque-là peut se révéler beaucoup plus fragile qu'une petite. Donc, c'est pas si simple.
Alors justement, je voudrais vous entendre là-dessus, Dominique Chéneau, sur ces fonds propres qui ont été décidés au moment des accords de Bâle 3, donc ces accords qui ont émergé après la crise. Il y avait d'abord eu les accords Bâle 1, puis les accords Bâle 2. Donc Bâle 3, on est en 2008, et c'est l'idée que un certain nombre de banques doivent mettre en œuvre ces nouvelles règles financières d'ici à 2027. Donc elles ont un certain temps pour le faire. Mais alors, que pensez-vous de cette exigence de 3% de fonds propres du total de l'actif d'une banque? Est-ce que ça vous paraît un montant suffisant?
Sur cet élément de fonds propres qui s'applique aux banques, ce taux s'applique à toutes les banques, quelle que soit leur taille. Bon, donc ça, c'est un élément qui doit rassurer. Maintenant, le business de ces banques peut être un peu plus difficile à faire parce que quand on est une grande taille, pour se diversifier, c'est moins compliqué quand on est tout petit. Bon, et les réglementations sont là aussi pour s'assurer qu'il y ait une bonne diversification, à la fois du financement, mais également des prêts qui sont faits. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc ça rassure. Le deuxième chose, est-ce que les banques vont continuer de se développer avec cette réglementation, si avec les évolutions qui existent? La réponse est définitivement oui. La seule et vraie question, qui est une question que tout le monde se pose et qui est toujours pas résolue, ou tout au moins dont la réponse évolue avec l'environnement, c'est quel est le couple rentabilité-risque. C'est aussi vieux que le code d'Amourabi, ce que je suis en train de dire. Mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Donc, on veut éviter des risques majeurs comme la faillite d'une banque, comme celle de Lehman, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Mais la contrepartie, c'est qu'il peut y avoir quand même quelques contraintes. Mmh. Bon, et ça, ces contraintes vont se traduire par le financement de l'économie, donc cette capacité.
Alors justement, ces réformes réglementaires ont exigé des efforts d'ajustement de la part des établissements financiers. Avec quel impact sur le financement de l'économie? Je vous propose d'écouter Frédéric Oudéa, l'ancien patron de la Société Générale, puis Marianne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française.
Le modèle de banque universelle à la française, il a fait ses preuves. Il a traversé la crise, à ma connaissance, sans coûter aux contribuables. On a plus financé l'économie au cours des trois dernières années qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne. Notre enjeu, c'est un enjeu de croissance. Donc ce qu'on disait simplement, c'est on a déjà beaucoup de problèmes en France. On a besoin de financement. Est-ce qu'on a besoin en plus de casser un système qui fonctionne alors qu'on peut parfaitement aboutir à le sécuriser?
Les contraintes réglementaires, elles ont nécessairement un impact sur le financement de l'économie. Chaque fois qu'il y a une ponction sous une forme ou sous une autre de 1 milliard sur les banques, compte tenu des ratios, etc., on arrive à peu près 10 milliards d'impact sur le financement de l'économie. Donc toutes les ponctions, entre guillemets, qu'elles soient réglementaires ou fiscales, et la fiscalité pèse extraordinairement lourd sur la capacité des banques à continuer à être actives dans l'économie française, eh bien évidemment, il y a potentiellement un impact.
Un extrait d'un documentaire de l'ESD, Faites sauter les banques, diffusé le 24 octobre 2017. Je précise que Frédéric Oudéa est toujours directeur général de la Société Générale, mais il n'est plus président. Alors, je voudrais entendre votre réaction à ce que l'on vient d'entendre. Est-ce que les contraintes réglementaires pèsent en effet trop lourd sur les banques et donc sur le financement de l'économie, Gisabelle Coupé-Souberan?
Alors, bon, ce qu'il faut relever, c'est que c'est Frédéric Oudéa qui s'exprime, hein, donc directeur général de la Société Générale. Qu'est-ce que la Société Générale? C'est une banque systémique, hein. Justement, c'est une banque systémique qui a un gros bilan, 1275 milliards d'euros de bilan, c'est 60% du produit intérieur brut de la France. Et ça, si vous voulez, ça fait partie des banques qui précisément, proportionnellement, sont assez peu capitalisées. D'accord. Une banque systémique comme Société Générale a 5-6% de fonds propres en pourcentage du total de ses actifs. Alors quand la Société Générale présente son ratio réglementaire, parce qu'on a évoqué le ratio de levier, mais en fait le ratio réglementaire, celui qui fait foi, c'est un ratio qui est beaucoup plus sophistiqué. C'est un ratio qui rapporte les fonds propres aux actifs en fonction de leur risque, pondéré par leur risque. Et ces poids de risque, ils sont mesurés par les banques elles-mêmes lorsqu'elles ont un modèle validé par le régulateur qui permet de le faire. C'est bien sûr le cas de Société Générale. Donc quand une banque comme Société Générale ou d'autres, des grandes banques de ce type-là, s'expriment à propos de la réglementation, eh bien, si vous voulez, elles n'ont de cesse, en fait, hein, de déployer la rhétorique usuelle des banques en nous disant « Attention, plus de réglementation, eh bien, ce sera forcément un financement de l'économie plus difficile, ça va avoir des effets pervers, ou c'est inutile, ou ça mettra en péril, mettra en péril la croissance. » Donc, c'est un petit peu le blabla habituel. Si on veut essayer d'être un peu pragmatique par rapport à cette question-là, est-ce que la réglementation a un effet sur le crédit, sur le financement de l'économie? En fait, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du modèle d'activité de la banque. Est-ce que justement c'est une banque très orientée vers les marchés ou est-ce que c'est une banque qui fait du crédit? Pour une banque qui fait du crédit, et avoir plus de fonds propres, c'est avoir plus de ressources. Et donc au final, ce sera plus de crédit, ce sera pas moins de crédit.
Et vous l'avez dit, Jésabelle Coupé-Zéran, pardon de vous couper, mais selon les nouvelles règles dites prudentielles, plus il y a d'actifs jugés risqués et plus la contrainte pesant sur la banque est forte. C'est ce qu'on appelle la pondération des risques. L'objectif de cette mesure, je voudrais vous entendre là-dessus, Dominique Chesneau, c'était d'empêcher que les fonds propres servent à couvrir les risques liés aux actifs.
Oui, les fonds propres ont toujours servi, et serviront toujours à couvrir les éventuelles pertes sur les actifs. Deux, trois choses sur lesquelles je souhaiterais revenir. On parle de conformité, on parle de ratio, je vais y venir très très vite. Il y a un élément de réglementation, il y a deux éléments de réglementation qui sont intéressants. On a parlé de Frédéric Oudéa. C'est à cause de la réglementation que Frédéric Oudéa a dû laisser son poste de président du conseil d'administration. Bon. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? En termes de diarchie, donc on multiplie les risques parce que deux personnes peuvent ne pas s'entendre. Par contre, on les réduit au sens où si l'un prend un avion, l'autre ne va pas prendre le même avion. Enfin, voilà, on peut en débattre à l'infini, mais c'est quand même un élément important. Il y a un deuxième élément de réglementation qui est que depuis quelques années maintenant, les autorités américaines ont imposé aux banques, alors principalement françaises, qui ont des activités aux États-Unis, mais ça commence à se s'épandre dans toute la zone euro. Le pourcentage de personnes qui sont dédiées au suivi de la conformité va représenter 4% du nombre d'individus. On est passé de 1 à 4.
Donc, Alors qu'est-ce que ça signifie ?
Comment ?
Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie que les banques, à cause de la réglementation, sont tenues de mieux s'autocontrôler et de mieux faire des reportings sur leur niveau de risque. Donc c'est bien pour tout le monde. Comme ça, on est un peu plus tranquille sur la qualité des prêts qui sont accordés et donc du financement de l'économie. La contrepartie, c'est que ces 3% de personnes en plus, ils ont un salaire, elles sont logées et donc ça a eu en réduction des bénéfices. Vous voyez, donc ça c'est un élément de réglementation particulier. Et puis le troisième point concerne justement cette pondération des risques. Si vous avez un établissement qui prête à des sociétés qui sont en LBO. Bah, c'est évidemment plus important que si
alors,
on prête à une société.
LBO.
Alors, un LBO, c'est une société qui est rachetée par quelqu'un d'extérieur en créant une holding dont la personne est propriétaire. Cette holding s'endette massivement pour pouvoir acheter la société dont elle est propriétaire. Et c'est avec les dividendes et quelques éléments de cash flow libre de la société industrielle qui va le remonter à la société de tête, et c'est avec ces dividendes-là que la société de tête va pouvoir rembourser la dette qu'elle a contractée au départ pour l'achat de la société initiale.
Alors par rapport à la pondération des risques.
Alors par rapport à la pondération, quand vous prêtez de l'argent à une entreprise donc qui est très fortement endettée à cause de ce montage que je viens de dire, versus une société du CAC 40 dont on sait qu'elle est à peu près correctement bêtonnée, bien prêter 100 euros à l'un et prêter 100 euros à l'autre, c'est pas la même chose. Donc dans un cas, prêter 100 euros, il va falloir mettre X% de fonds propres par rapport à un prix qui va être un encours pondéré qui va être peut-être de 90 euros. Dans l'autre cas, c'est le même montant de fonds propres mais rapporté à un encours qui va être seulement 30% du montant nominal. C'est là où les différences sont vraiment très très importantes. Et donc certaines entreprises vont plutôt avoir tendance à prêter au bon risque plutôt qu'à prêter au mauvais risque. Et ça nous permet de continuer d'en parler.
C'est ce que ça entraîne comme conséquence, Jésabelle Coupé-Zéran, c'est finalement il va y avoir une discrimination plus importante entre les entreprises qui présentent plus de risques et les autres.
Je crois qu'effectivement, les pondérations dans les exigences de fonds propres, les pondérations pour refléter le risque des actifs, c'est une fausse bonne idée. A priori, ça semble être une bonne idée parce qu'on se dit tous les crédits, tous les actifs de la banque ne présentent pas le même risque. Donc si on met des fonds propres en face pour essayer d'absorber les pertes éventuelles, autant que ce soit calibré en fonction du risque, en fait le risque on ne sait pas très très bien le mesurer. C'est précisément parce qu'on ne sait pas très bien le mesurer que le régulateur a autorisé les banques à utiliser leur propre modèle. Mais quand les banques utilisent leur propre modèle, que font-elles ? Eh bien, elles calibrent ces modèles au mieux. Ce sont des modèles sophistiqués avec des milliers de paramètres. Et donc il y a des manipulations de ces pondérations. Et vous voyez, on en revient finalement à cette distinction entre un ratio très simple, une exigence simple de fonds propres en fonction du total du bilan, voire un peu de hors-bilan également. Et puis, un ratio beaucoup plus sophistiqué, calibré en fonction des risques, qui en fait ouvre la porte aux manipulations et qui ensuite peut avoir, je le reconnais, des effets pervers quand on augmente l'exigence de fonds propres. C'est pas l'exigence de fonds propres en soi qui va avoir pour effet de réduire le crédit aux entreprises. C'est le jeu de ces pondérations qui conduit à des arbitrages.
Mmh. Et en effet, ce sont un certain nombre de banques qui produisent elles-mêmes les informations et les risques, ce qui rend peut-être les choses compliquées pour le régulateur. Mais le comité de Bâle, face à cela, a proposé de mettre en place un ratio de fonds propres, justement, sans pondération, et aussi de restreindre l'utilisation des modèles internes qu'utilisent donc les banques pour évaluer les risques. Mais ces mesures ont finalement été bloquées, Jezabel Coupé-Souberain.
Alors, bon, oui et non. Le ratio sans pondération, c'est le ratio simple dont on a parlé. C'est le ratio de levier. Donc, ce ratio, il existe dans les accords de Bâle III. Le problème, c'est qu'il est très peu contraignant. Ce ratio instaure un minimum de fonds propres à 3% hein, des actifs sans pondération. Toutes les banques sont largement au-dessus. Mmh. Donc, c'est pas véritablement une contrainte. Ensuite, il y a eu, la finalisation des accords de Bâle III en décembre 2017, où il s'est agi effectivement de fixer un plancher pour que les actifs pondérés par les risques tels que les mesures les banques avec leurs modèles internes ne soient pas, si vous voulez, significativement plus petits que ceux que va mesurer le régulateur avec son modèle standard. Donc ce plancher, c'est 72,5%, mais ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a quand même une économie assez substantielle de fonds propres que les banques peuvent réaliser lorsque elles utilisent leurs modèles internes. Et pourquoi cherchent-elles autant à compresser les fonds propres, ces grandes banques? Bien, tout simplement pour mieux servir leurs actionnaires. Parce que pour un même bénéfice, le fait de rapporter ce bénéfice à une quantité de fonds propres plus petite, ça permet d'augmenter le bénéfice par action. Et on touche là au point clé. C'est vraiment, si vous voulez, le problème très ambivalent. Les banques ont besoin de fonds propres, mais en même temps, elles doivent avoir des actionnaires qui ne leur font pas subir des pressions, des exigences de rentabilité complètement hors normes.
C'est une question importante. En effet, cette dépendance aux actionnaires, tout dépend de ce degré de dépendance des banques, Dominique Chesneau.
Pour répondre à votre question, je vais revenir sur la précédente, si vous me permettez.
Bien sûr.
Quand on a de la fièvre, c'est jamais une bonne idée de casser le thermomètre. Quand on a vu que les banques avaient un comportement qui était relativement nocif pour ses actionnaires, pour ses créanciers et pour le pays tout entier, il fallait quand même faire quelque chose. Ce quelque chose a été fait et l'introduction de ces pondérations me paraît avoir été une bonne chose parce que je citais l'exemple d'une société en LBO versus une société du CAC 40. Encore une fois, il est normal quand on prête 100 à l'une et 100 à l'autre de pas avoir le même impact sur les fonds propres. Bon, donc il y a probablement 43 méthodes, mais au moins sur le plan du principe, je crois que c'est pertinent. Sur j'avais employé le terme de manipulation, qui est un terme évidemment un peu poussé et que
il figure dans bon nombre d'études. Hein, je peux vous les envoyer.
Absolument. Donc le point, c'est que ça a été parfaitement identifié. Donc c'est le terme. Sur le fond, on est à peu près d'accord. C'est le terme qui était peut-être un tout petit peu violent. Ça a été tellement bien identifié que dans le cadre de Bâle III, a été prévu le risque de modèle. Donc comme on sait que des modèles peuvent éventuellement ou ne pas être tout à fait pertinent, ou leur évolution n'a pas suivi l'évolution de l'environnement, eh bien on va intégrer ce risque
ça
de modèle.
C'est un des points qui a été soulevé.
Voilà, donc ça c'est un point important. Et puis un autre élément qui me paraît important, c'est qu'on est déjà en train de discuter de Bâle IV. Et Bâle IV va continuer de renforcer le contrôle, par exemple, de la donnée qui est manipulée, va renforcer le contrôle des informations qui sont détenues par la banque sur les entités auxquelles elle prête, etc., etc., etc.
Alors, on suivra tout cela de près, mais peut-être que pour comprendre la faiblesse actuelle du financement de long terme, il faut revenir aux évolutions du système financier dans les années 90 et 2000. C'est à cette période, Jezabel Coupé-Souberain, que les titres financiers vont finalement monter en puissance au détriment du crédit.
Oui, complètement. C'est vrai que les banques n'ont pas subi passivement la transformation des marchés financiers. Les marchés financiers se sont considérablement développés et les banques ont accompagné ce développement et ont adossé de plus en plus leur activité au marché.
Ce qui explique qu'il y ait de plus en plus de crédits de court terme plutôt que de crédits de long terme.
Alors, ce qui explique en tout cas que la part des crédits dans les bilans bancaires se soit réduite. Aujourd'hui, Alors si on prend en moyenne, d'accord, ce sont des grandes masses. Bien sûr que si on regarde une très grande banque et puis une banque de proximité, ce sera différent. Mais en moyenne, les crédits au bilan des banques, c'est 30%. 30% de l'actif, d'accord. Les titres, pour en moyenne aussi, c'est 40-50%, 50% de l'actif. Dans ces 30% de crédits, eh bien en fait, vous avez surtout beaucoup de crédits immobiliers. Et dans ces 30% de crédits, vous avez en gros 15% de crédits qui vont aux entreprises. Et si vous restreignez encore un petit peu plus pour voir quelle est la part du crédit qui va au PME, là vous êtes à 5% du bilan des banques.
Donc finalement, ce qui devrait être le cœur de métier de la banque, le principal cœur de métier qui est le financement des entreprises et notamment des PME, c'est de moins en moins le cas avec le fait que les banques commerciales sont devenues les principaux acteurs finalement des marchés financiers, Dominique Chéneau.
Oui, les banques en général ont toujours été des acteurs des marchés financiers. Pour les raisons qu'on vient d'évoquer depuis 25 minutes. Si je comprends votre question, qui serait de dire que les banques ne font plus leur métier parce qu'elles commencent à avoir dans leur bilan essentiellement des instruments financiers, ça c'est assez difficile de l'expliquer. Je vais vous donner juste deux chiffres et vous n'allez pas avoir une tornade de chiffres. Le taux du crédit le volume des crédits accordés en 2018 en France a été autour de 5,9% en hausse. Bon, dans la zone euro, c'était autour de 2,9%. Donc, on a mieux fait. Bon, on a mieux fait. Pourquoi on a mieux fait? Bon, on a mieux fait parce que nos banques, elles sont dans une meilleure santé que, sans citer personne et sans montrer du doigt, mais que les banques allemandes, par exemple, dont on dit qu'il est aux trois quarts sinistré. Donc, le fait que, et c'est principalement par les banques publiques, hein, les banques des lenders. Bon, donc ces éléments-là sont des éléments qui sont quand même importants et qui permettent d'avoir cette partie.
Mais est-ce qu'on peut véritablement parler d'un recul des financements de long terme, Dominique Chéneau?
Non, on peut pas parler de ça. Je le présenterai d'une autre façon. Le financement de l'économie se fait par des titres financiers et également par le système bancaire. En Europe, cette part a été pendant très très longtemps de 90-10, voire 80-20, 80 de financement bancaire et 20% de financement par les marchés. Aux États-Unis, ça a toujours été plus faible, et là on est autour de 20, d'une quarantaine de pourcents, entre 30 et 40% de financement par la banque, et le solde par les marchés. Bon. Donc, ce financement par les marchés se fait via des intermédiaires. Donc, dans ces intermédiaires, les banques sont des intermédiaires, et d'autres aussi en sont. Pour être des intermédiaires, ça veut dire aussi faire de la liquidité. Faire de la liquidité, ça veut dire détenir les titres pour que quand quelqu'un en souhaite, la banque peut en donner. Donc ça peut faire aussi partie de son marché. C'est pas de la spéculation pure sur des taux qui se mettent à baisser ou à monter de façon inconsidérée.
On va revenir sur les autres types de médiation. En effet, Gisabelle Coupé-Soubéran, vous vouliez réagir?
Oui, moi je voudrais réagir parce que pour moi, la réponse à votre question est clairement oui. À la question de savoir si la contribution des banques au financement de l'économie à long terme a diminué, la réponse est oui. Les banques, à mon sens, et je m'appuie sur pas mal de travaux pour avancer cela, les banques se sont détournées de leur fonction majeure, qui est effectivement de contribuer au financement de l'économie en apportant des financements aux entreprises. Alors, il ne s'agit pas de dire que tout le bilan de la banque doit se concentrer sur du crédit, d'accord, mais que l'on regarde, si vous voulez, la partie crédit ou que l'on regarde le reste, eh bien, finalement, rien n'est bien orienté aujourd'hui, rien n'est massivement orienté vers le financement de long terme. Quand vous êtes dans la partie crédit, 30% du bilan des banques, eh bien, seule une toute petite partie de ce crédit va vraiment à l'investissement des entreprises, d'accord, une toute petite partie. Et quand vous prenez le reste, quand vous prenez la partie des titres gérés par les banques, bien sûr que si les banques étaient massivement présentes sur les marchés primaires et si elles achetaient des titres en les portant longtemps, bien sûr que ça contribuerait au financement de l'économie. Mais où sont-elles? Elles ne sont pas sur les marchés primaires, elles sont sur les marchés secondaires. Leur portefeuille de titres qui est gros, ce n'est pas le portefeuille de titres qu'elles détiennent sur du long terme. Ce sont des titres qu'elles vendent, qu'elles revendent sans cesse. C'est leur portefeuille de trading. Donc ça ne contribue pas au financement de long terme de l'économie.
Alors je voudrais vous faire entendre Dominique Plion pour l'économiste. La raison principale de la baisse du crédit en France, c'est d'abord l'absence de demande de financement.
Les conditions du crédit de la BCE, Banque Centrale Européenne, la Banque de France, montrent qu'il n'y a pas de rationnement du crédit en France et en Europe et que le problème n'est pas une insuffisance de crédit aux entreprises, notamment aux PME, que c'est encore une fois une question de demande adressée aux entreprises. Donc attention, portons le bon diagnostic. La question de financement aujourd'hui est seconde de très loin par rapport à la question de l'activité déprimés par des politiques économiques d'austérité, d'accord, par une demande insuffisante. Les enquêtes de conjoncture que j'ai sous les yeux là, notamment de la Commission européenne, le montrent, c'est le déficit de la demande adressée aux entreprises qui est de très 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 loin le principal déterminant de l'investissement de l'activité.
Vous partagez cette analyse, Dominique Chénault ?
Oui et non. J'ai pris le soin de vous expliquer la part descendante du financement de l'économie par les banques pour le mettre en parallèle avec ce taux de croissance des volumes de crédit de 6%. Quand vous avez un taux de croissance des volumes de crédit qui est de 6%, alors que la part du financement des banques dans l'économie est plutôt à la réduction, et de l'ordre de 2 à 3% encore dans l'année 2018, vous voyez que la croissance réelle, pas ramenée à l'économie, mais ramenée au financement bancaire, cette croissance est la plus importante. Donc, au point qui vient d'être donné, oui, il y a un problème de demande. Il y a un problème de demande principalement sur les PME. Il y a pas plus de 10% des PME qui ont demandé des crédits trésorerie. Mais quand elles ont demandé des crédits trésorerie, pour les PME, 80% de ces crédits ont été accordés. Voilà.
Oui,
donc on est pas dans une situation
qui
est tout à fait cataclysmique. Donc le point est assez juste. Mais il me paraît excessivement pessimiste.
Oui, parce que les entreprises françaises bénéficient de conditions de financement qui sont favorables aujourd'hui. Depuis la crise, les taux de crédit bancaire aux entreprises ont largement baissé. Jésabelle Coupé.
Oui, les taux sont bas et Dominique l'a rappelé. C'est vrai que le crédit est relativement dynamique. Mais ce débat là auquel réagissait Dominique Plion, c'est un débat récurrent. C'est le débat de savoir si on souffre d'un problème d'offre de financement, si les entreprises ont des problèmes d'accès au financement, ou bien si le ralentissement du crédit qu'on avait observé après la crise, en 2007-2008, les années 2009-2010, bon, ce sont des années vraiment de crédit complètement atone, et tout le monde se disait, en fait, c'est parce que ce sont les banques qui rationnent, quand d'autres disaient, mais non, en fait, le problème, c'est surtout un problème de demande. Donc c'est à ça
de ralentissement de l'activité, très
c'est
simplement.
Ça. Mais vous voyez, qu'on souligne un problème d'offre de financement en disant, les banques se sont détournées de leur activité qui devrait être leur activité principale. Ou bien qu'on y voit plutôt un problème de demande atone, bien que ce soit un petit peu reparti depuis. Dans les deux cas, vous avez quand même un problème qui se rapporte aux banques. Pourquoi ? Parce que si c'est un problème d'offre, ça veut dire que ce qu'on remet ici en question, c'est le modèle d'activité des banques. Et si c'est un problème de demande, le problème central, c'est quoi ? C'est la crise financière. Ce sont les conséquences de la crise financière. Et à moins de considérer que les banques soient totalement étrangères aux facteurs qui expliquent la crise financière, eh bien ce problème de demande, il a aussi quelque chose à voir avec les banques.
Et alors justement, est-ce qu'il faudrait ralentir l'essor de la sphère financière ? Autrement dit, quelles sont les relations entre finance et croissance ? Jésabelle Coupé-Soubéran, c'est aussi ça la question qui se pose aujourd'hui.
Ah oui, complètement. Ça me semble être, si vous voulez, la question clé. Et je crois que finalement, ce lien entre finance et croissance, entre le développement de la sphère bancaire et financière et la croissance est aujourd'hui assez mal compris par nos gouvernants, voire aussi par les régulateurs.
Dans une certaine mesure, cela peut provoquer de la croissance.
Oui, alors effectivement, il y a plein d'études empiriques qui montrent ça. Longtemps, on a pensé que plus de finances, c'était plus de croissance. Et puis, lorsque la crise est arrivée, enfin, on s'est posé la bonne question. On s'est dit, oui, mais peut-être que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et peut-être qu'il existe un seuil au-delà duquel, eh bien, ce n'est plus le cas. Alors, il y a des études empiriques qui ont montré ça très, très bien, qui ont été conduites d'ailleurs au sein des grandes institutions financières internationales, au sein du FMI, et qui montrent que lorsque le volume de crédit présente à peu près 100% du produit intérieur brut d'un pays, eh bien, c'est précisément le seuil au-delà duquel, si on continue de développer le secteur bancaire et financier, la croissance en pâtira. Et ça veut dire des choses importantes. Et nos gouvernants devraient vraiment se saisir de ce type de résultat. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut véritablement arrêter, si vous voulez, de chercher un développement du secteur bancaire et financier. Il faut arrêter là de se prosterner devant les financiers de la City pour les faire venir en France, par exemple. Il faut, au contraire, contenir l'essor de la sphère bancaire et financière. C'est comme ça qu'on retrouvera du potentiel de croissance et réorienter l'activité des banques vers le financement
de l'économie. On a compris, vous appelez à davantage de régulation financière, mais on va parler dans un instant des alternatives qui existent à la banque. Y a-t-il d'autres moyens de financer l'économie que la banque? On en parle dans un instant. It's Money You Need du chanteur jamaïcain Laurel Aitken sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, retour à notre discussion sur les nouveaux acteurs qui concurrencent les banques traditionnelles. Nous sommes en compagnie de Gisabelle Coupé-Soubéran et de Dominique Chéneau. Alors d'abord, est-ce que c'est pendant la crise de 2008, Dominique Chéneau, que les entreprises ont pris conscience de cette nécessité de diversifier les sources de financement face aux difficultés auxquelles étaient confrontées les banques?
Oui. Elles l'ont faite, mais pas toutes. Si on permettait de revenir sur juste deux points, la réglementation sur les ratios de liquidité ont imposé aux banques d'avoir des actifs liquides qui leur permettaient de faire face à tous leurs engagements, donc tous les décaissements, sur un mois. Ces actifs liquides, ce sont des titres financiers. Donc l'encours de titres financiers a monté pour que les banques soient plus sûres. Deuxième point, c'est un peu un clin d'œil à Isabelle, mais quand elle a parlé des banquiers de la City, ceux qui de la City viendraient à Paris, ils vont pas gonfler l'endettement de l'économie française. Ils vont participer à la consommation et à l'investissement, mais ils vont pas bouger l'endettement. Donc
comment
c'est vraiment
ça?
Parce que les banquiers qui étaient dans la City et qui organisaient des prêts à différents pays, c'était pas forcément à la France. Donc ils organisaient des prêts à différents pays, à l'Allemagne, à l'Italie ou à la Chine. Ils vont le faire depuis Paris, mais c'est pas des prêts directement sur la France. Alors maintenant, pour répondre
à
votre question,
sur la diversification des sources de financement,
la réponse est oui, et c'est la volonté de tout le monde. C'est-à-dire que vous expliquez que les banques voient leur part dans le financement de l'économie baisser, et beaucoup d'entreprises sont en train aussi de le faire. Et pour que les banques puissent continuer de prêter aux petites et moyennes entreprises, il faut justement qu'elles en prêtent un peu moins aux grandes entreprises. Et coup de chance, les grandes entreprises qui, elles, ont les moyens d'intervenir sur les marchés, ont énormément levé de dettes depuis 5 ou 6 ans pour profiter des taux très bas. Ils ont même levé de la dette pour des encours qu'ils n'utiliseront peut-être que dans 2 ou 3 ans. Mais au moins, ils ont verrouillé un taux d'endettement à 10 ou 15 ans qui est autour de 1,5%. Donc elles ont raison de le faire. Alors, mais il y a d'autres sources de financement, on en parlera peut-être tout à l'heure.
On va en reparler, mais cette diversification des sources de financement, c'est ce qui a permis une reprise plus rapide aux États-Unis. C'est en tout cas ce que nous explique Thomas Grejbin. Il est économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI.
On regarde les reprises aux États-Unis et en Europe, que beaucoup d'économistes ont observé, c'est que la reprise aux États-Unis a été plus rapide. Et une des explications, une des hypothèses, c'est justement que la reprise a été plus rapide du fait d'une diversification des sources de financement qui existent aux États-Unis. Donc schématiquement, qu'est-ce qui s'est passé en 2008-2009? Il y a eu des grosses difficultés qui ont été rencontrées par les banques, et ces banques, du fait de ces difficultés, ont dû réduire leur offre de crédit. Et du fait de l'existence d'un marché obligataire, c'est-à-dire les entreprises émettent des titres de dette, c'est ça le financement obligataire, pour se financer. Et donc, du fait de l'existence d'un marché obligataire aux États-Unis, en fait, les entreprises ont pu se tourner vers ce marché obligataire du fait que les banques elles-mêmes ne pouvaient pas prêter. Et donc, ce qu'on a pu observer, c'est que l'investissement a pu repartir plus vite et l'emploi et l'activité a pu repartir plus vite.
Un extrait de l'émission L'économie en question de Dominique Rousset le 14 novembre 2015. Si l'on comprend bien, Jezabelle Coupé-Soubéran, ce sont les grandes entreprises qui devraient se tourner davantage vers les marchés et les petites et moyennes entreprises qui, elles, devraient continuer à se tourner vers les banques parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller sur le marché obligataire.
C'est pas devrait, c'est en fait ce qu'on observe, c'est ce qui est. Le financement, le choix de financement n'est pas le même selon qu'on est une petite ou une grande entreprise. Quand on est une grande entreprise, c'est vrai qu'on a la possibilité de mieux diversifier ses financements. On a la possibilité d'aller se financer sur le marché en émettant des titres de dette, des obligations, en émettant des actions. Et puis on peut aussi bien sûr faire appel aux banques pour obtenir du crédit. Lorsqu'on est une petite entreprise, on est structurellement plus dépendant du crédit bancaire. Et donc c'est un fait, le financement des grandes entreprises est beaucoup plus diversifié que le financement des petites entreprises. Et c'est un fait aussi que lorsque le financement est plus diversifié, eh bien il est plus facile, si vous voulez, en temps de crise, lorsque par exemple le financement bancaire devient plus rare, il est plus facile ainsi de basculer sur un autre type de financement. Donc les entreprises dont le financement est plus diversifié sont plus résilientes et l'économie se redresse elle-même plus vite. Mais, et j'en ai beaucoup débattu avec mon collègue Thomas Gébine au CEPI, tout ça c'est en fait un problème de structure productive de l'économie, c'est-à-dire que la taille des entreprises, la diversification du financement des entreprises, ça ne se change pas comme ça en un claquement de doigts. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Il y a plus de grandes entreprises qu'en Europe. Et encore en France, on est de ce point de vue-là pas si mal loti parce qu'il y a une part de grandes entreprises qui est,
on a
qui
un
est
modèle
plus grand.
Mixte en France, à la fois des PME, à la fois des grandes entreprises.
Exactement. Mais voyez, par exemple, si on prend les chiffres pour les entreprises européennes, vous avez 93% des entreprises européennes qui ont moins de 10 salariés. D'accord? Contre la moitié seulement des entreprises américaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Europe, en fait, on a surtout des petites entreprises. Et vous avez en Europe uniquement 0,2% des entreprises qui ne sont pas des PME, qui ont plus de 250 salariés. Ce sont ces entreprises-là qui ont la possibilité de diversifier leur financement. Les autres sont plus dépendantes du crédit bancaire. Et encore une fois, ça ne se change pas comme ça du jour au lendemain. Et ça veut dire que, certes, on peut essayer de travailler à diversifier le financement des entreprises, mais il faut surtout travailler à ce que les banques fassent correctement leur travail et financent les entreprises qui en ont besoin.
Dominique Chéneau.
Oui. Deux choses. La première chose sur l'effet sur la reprise aux États-Unis par rapport à l'Europe. On va donner un exemple très très simple. Quand une entreprise se finance directement sur les marchés, la politique monétaire qui est menée par la Banque centrale se répercute immédiatement sur les taux pour les entreprises. Et donc, on décide de baisser de 2% les taux, enfin, l'espace de 6 mois, 1 an, ces taux baissent effectivement de 2%. Quand ça passe par les banques, il y a un coût d'intermédiation. Et donc, dans cette organisation d'intermédiation, ça peut coûter plus cher pour des gros volumes que quand on passe par des intermédiaires, certes financiers, mais qui ne sont pas bancaires. Donc, le fait de remettre très très vite de la nitroglycérine dans le réservoir... Ça peut mal se terminer, mais un pétrole enrichi dans le réservoir, ce qu'on peut faire dans un pays, on peut pas faire dans une autre zone. Donc ça, c'est un impact qui est très immédiat.
Mais donc les grandes entreprises s'en sortent mieux que
donc
les PME.
Elles s'en sortent mieux et elles retirent tous les autres. Maintenant, un élément aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de petites entreprises aux États-Unis et qui ont aussi un accès au marché via des titres de créance qui sont des titres de créance avec de petits montants. Et ça, nous, on l'a pas encore. Donc, des titres de créance, quand on émet un ticket de dette qui peut faire 1 million, aux États-Unis, ça peut se faire. Et ça va coûter 2 à 3% de frais de montage. En France, ça n'existe simplement pas. Bon, mais pour quelqu'un qui fait un ticket de 100 millions, ça va coûter seulement 1%. Donc, vous voyez, il y a cet élément. Et ça, il faut réfléchir effectivement à cette structure de distribution du crédit. Et je veux pas être trop en avance, mais c'est en partie ce que veulent faire les fintechs. On dit aussi, dans le cas du refinancement, beaucoup de banques ont fait, c'est un mot qui est très 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 mal perçu maintenant, qui est de faire de la titrisation. Bon, la titrisation, pour vous le faire court, la banque a un portefeuille de crédit, ce portefeuille de crédit décide de le vendre à un fonds, comme un placement. Ce fonds de commun de placement, il émet des parts, ses parts sont des instruments financiers qui sont détenus par des particuliers. Donc, c'est un moyen de financiariser une partie du crédit bancaire. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, et même énormément. Maintenant, on va voir les limites de cet effet-là, et ça, c'est pour ça qu'il faut le réfléchir en Europe. Les limites, c'est que quand vous avez un endettement pour les étudiants, par exemple, qui est sur 10 ou 15 ans, puisque président Obama n'a remboursé ses frais de scolarité à Harvard que la deuxième année de son premier mandat, bon, là, on a un vrai sujet. Oui, donc ça aussi c'est un élément
qui est très important. La titrisation dont la responsabilité a été pointée du doigt dans la crise financière de 2008, c'est finalement un financement alternatif. Il y aurait de bonnes et de mauvaises titrisations.
Ça s'appelle la transparence. Ce qu'on dit, c'est la transparence. Aux États-Unis, il y a eu de l'escroquerie. Il y a eu de l'escroquerie organisée. En d'autres termes, cette escroquerie, elle consistait à organiser la non-transparence. Bon, même organiser le blackout complet. Bon, certains ont accepté, et vous avez des banques qui continuent de payer en Allemagne, qui ont acheté des papiers parce que c'était des grands noms. Donc, elles ont fait ça en confiance, et après, elles ont pris des milliards et des milliards.
Alors, sur la titrisation, je pense que Isabelle Coupé-Souberan ne va pas être tout à fait d'accord.
Je reconnais qu'il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Hein. La titrisation, c'est une technique de refinancement des banques. Mais j'ai beaucoup de doutes quant à la possibilité d'organiser une titrisation simple, standard, transparente, comme nous l'explique la Commission européenne dans le cadre de la réforme d'union des marchés de capitaux. C'est compliqué d'organiser une titrisation standard. Parce que ça veut dire, si vous voulez, qu'il faut arriver à... transformer en titres des paquets de crédit complètement homogènes. Et vous voyez, tout à l'heure, on évoquait en fait une forme de titrisation du crédit aux entreprises. Les crédits aux entreprises, ils sont pas du tout homogènes. À la rigueur, les crédits immobiliers, ils le sont relativement, et c'est pour ça que les crédits immobiliers ont été massivement titrisés aux États-Unis. Mais les crédits aux PME, c'est pas homogène du tout. On peut pas faire de la titrisation standard avec du crédit aux PME, et donc réintroduire ainsi la titrisation en se disant mais cette fois ce sera différent et en négligeant complètement le comportement, l'incidence que ça peut avoir sur le comportement face au risque, ça me semble extrêmement dangereux.
Dominique Chénault.
Oui, au moins autant que l'homogénéité ou l'inhomogénéité, l'important c'est encore une fois la transparence. Pas parce que c'est du crédit aux PME qui ne sera pas forcément homogène. Le tout c'est qu'il soit transparent. Et la difficulté que pointe Isabelle à l'instant, la Commission et les parlementaires sont parfaitement au courant de ça, puisqu'il y a un projet de directive sur la titrisation qui existe et qui traîne depuis 7 ou 8 ans. Eh bien, à l'état de projet de directive, Je vous demande un peu quel est le nombre de critères qu'il faudrait suivre pour avoir le label titrisation sécurisé. 50. Donc pour avoir une titrisation avec 50 critères contrôlé. Observés, évidemment le truc n'est pas possible. Donc voilà votre question, en quoi c'est compliqué? Jabel a répondu, je vois l'autre élément de réponse très quantifié.
Et vous avez évoqué,
est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Là aussi c'est le couple rentabilité-risque.
C'est encore un autre débat, mais alors vous avez évoqué Dominique Chénault tout à l'heure les fintechs, cette contraction des mots finance et technologie. La fintech c'est souvent une start-up, le plus souvent, qui cherche à réinventer la finance grâce aux nouvelles technologies. Elles se sont développées elles aussi, après la crise de 2008. Quels sont les services qu'elles proposent, Isabelle Coupé-Souberan, et comment expliquer le succès, le fait qu'on en parle autant ces dernières années?
Il y a toute une constellation de fintech qui sont présentes vraiment sur une gamme de services très différents, donc aussi bien dans les services de paiement, dans les services de gestion d'épargne, avec l'essor des robots advisors, des conseillers robots, des services de financement, avec l'essor des plateformes de crowdfunding, du placement, du financement participatif, par la foule. Donc ces plateformes, est-ce que c'est une nouvelle forme d'intermédiation ou est-ce que c'est plus proche d'un financement de marché? On ne sait pas encore trop. C'est plutôt présenté actuellement comme une nouvelle forme d'intermédiation. Ça met en relation des épargnants d'un côté et puis de l'autre côté, des entreprises, des porteurs de projets. Ça se développe. C'est tout petit pour l'instant, mais ça se développe. Au Royaume-Uni, par exemple, on sait que l'année dernière, ça a été 30% des nouveaux crédits des toutes petites entreprises. Donc ça veut dire que pour des petites structures entrepreneuriales, c'est sans doute un mode de financement qui est assez bien adapté, mais qui fait quand même reposer le risque sur les épargnants.
Alors deux questions rapidement, Dominique Chénault, parce qu'on arrive presque au terme de cette émission, mais est-ce que ces fintechs constituent une concurrence sérieuse pour les banques traditionnelles? Et est-ce qu'on peut se demander aussi si elles sont encore, si on a encore au balbutiement. Donc en réalité, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais comment comprendre que le crowdfunding, par exemple, soit en perte de vitesse aujourd'hui, selon le journal Les Échos, 50% des fintechs qui ont disparu en 2018 avaient des activités dans le domaine du crowdfunding.
Oui. L'activité de crowdfunding, c'est une activité qui est très ancienne. C'est prévu dans le code civil. Et nos auditeurs d'Afrique subsaharienne connaissent ça très très bien sous le terme de tontine. Bon, donc on le connaît et on essaie d'appliquer un peu ça.
La technologie en moins, hein, quand même.
La technologie en moins, peut-être heureusement. Donc non, il y en a eu beaucoup qui ont disparu. On est encore dans un stade de balbutiement ou un début d'adolescence, puisqu'on n'est pas encore dans la consolidation. Alors, à votre toute première question qui était, est-ce que ce sont des concurrents? Elles se sont mises sur des marchés qu'il était impossible que les grandes banques ne pouvaient pas concourir dans les délais avec lesquels ces marchés s'ouvraient. Donc elles ont effectivement été utiles. Ensuite, est-ce qu'elles sont aussi des concurrentes? Il y a des regroupements qui se sont faits. BNP Paribas a acheté le compte Nickel, qui est un énorme truc, qui leur permet de diversifier pour la clientèle moyennement fortunée. Et c'est un beau pendant de Hello Bank, qui est pour la clientèle un peu plus expérimentée.
Les fintechs contraignent en tout cas les banques traditionnelles à adapter leur modèle économique. Ce sera le sujet dont on discutera demain. Un grand merci à tous les deux. C'est l'heure de retrouver Arjuna Andrat pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur une polémique qui fait rage entre la France et l'Italie sur la question du franc CFA.
Oui, les vice-présidents du Conseil italien, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, se sont livrés le 20 janvier dernier à une attaque en règle contre les politiques monétaires de la France en Afrique, qualifiées de néocoloniales en l'accusant de se servir du franc CFA comme d'une arme politique pour perpétuer son emprise et sa domination sur le continent africain. Ils en ont ainsi appelé à une véritable décolonisation de l'Afrique, expliquant que cette perpétuation des régimes de domination était un frein au développement et la cause des flux de migrants qui viennent ensuite, je cite, mourir en Méditerranée ou débarquer sur les côtes italiennes. Mais derrière ces provocations verbales et ces outrances aux relents xénophobes, les dirigeants italiens mettent le doigt sur une problématique bien réelle, celle de l'ingérence et du contrôle qu'exerce aujourd'hui encore la France sur les 14 pays africains de la zone franc CFA.
Une domination dénoncée par de nombreux économistes en Afrique, mais aussi sur le vieux continent.
Absolument, il faut dire que la France est aujourd'hui le seul État au monde qui gère toujours la monnaie de ses anciennes colonies. Ce sont ainsi 14 pays africains répartis en deux zones économiques distinctes qui sont de facto sous la tutelle du ministère français des Finances. Concrètement, cela signifie que le franc CFA est indexé sur l'euro et que le Trésor français garantit sa convertibilité en euros, mais aussi que pour assurer cette parité franc-euro, les banques centrales des pays africains doivent déposer la moitié de leurs réserves de change à la Banque de France. Aussi anecdotique que révélateur, il est intéressant de préciser que l'émission même de cette monnaie africaine se fait toujours en France, à Chamalières, plus précisément dans le fief historique du président Valéry Giscard d'Estaing. Si des partisans défendent un mécanisme qui permet d'assurer la stabilité et la crédibilité du franc CFA en l'adossant à l'euro, ses opposants dénoncent quant à eux un système qui contraint les économies africaines à subir les politiques monétaires de la zone euro, même lorsque celles-ci ne leur sont pas favorables.
Ce qui peut effectivement être un frein pour l'économie des pays africains.
Oui, car les objectifs et les besoins d'une économie en développement et en expansion sont loin d'être les mêmes que celles des pays du vieux continent, surtout quand ils se doublent d'éléments politiques, voire idéologiques. Car comme nous avons pu le voir hier, l'une des obsessions de la Banque Centrale Européenne est de lutter contre l'inflation, une politique guidée non seulement par des raisonnements économiques qui peuvent être discutés, mais aussi par un héritage politique et culturel propre à l'Europe. Imposer cette nécessité aux pays africains peut donc s'avérer contre-productif, voire tout à fait néfaste. C'est d'ailleurs ce qu'explique l'économiste sénégalais Demba Moussa Dembélé, qui rappelle que cette priorité de la BCE imposée aux banques africaines a des conséquences négatives sur l'accès au crédit des entreprises du continent qui en ont pourtant formidablement besoin.
Un système qui est dans le même temps très favorable à la France et à ses entreprises.
Exactement, comme l'explique un article de Mediapart consacré à cette question, ces règles sont très intéressantes pour la France qui peut acquérir des matières premières africaines sans avoir à débourser de devises étrangères. Dans le même temps, les compagnies françaises peuvent investir dans la zone franc sans avoir à craindre de dépréciation monétaire et peuvent, grâce au libre transfert des capitaux entre zone franc et zone euro, rapatrier leurs bénéfices vers l'Europe. Si on peut donc s'indigner de la récupération politicienne qui est faite de ce sujet par le gouvernement italien, la polémique ne doit pas faire oublier la réalité de cette monnaie qui continue d'être perçue et même d'agir comme un instrument de pouvoir et de domination plus de 50 ans encore après l'indépendance de nos anciennes colonies.
Oh, braque les banques avec les Clash, c'est Bank Robber. Merci beaucoup Dominique Chéneau et Jezabelle Coupé-Soubéran de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On mettra évidemment sur notre site internet les références de vos ouvrages. On se retrouve demain pour une nouvelle émission qui sera consacrée au nouveau modèle économique des banques. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous les coups.